Une nuit de Christ. Penchés sur leurs avirons, les rameurs causent entre eux, tandis que l'embarcation s'éloigne du rivage. Au fond de la barque sont déposées 12 corbeilles pleines de morceaux de pain. Ce sont les restes du festin que le maître a fait surgir pour le peuple au milieu du désert. Mais ce miracle ne les occupe guère. Ils n'y ont pas pris garde, tant leur intelligence est épaisse, tant elle est fermée aux choses qui ne touchent point à leur orgueil ou à leur intérêt personnel. De quoi donc s'entretiennent-ils? Sans doute ils se demandent pourquoi Jésus les a contraints de s'embarquer sans lui. Et comme ils ont eu vent des projets de la foule, qui voulait enlever leur maître pour le faire roi, ils le soupçonnent peut-être de les avoir abandonnés, pour ne point les associer à sa dignité nouvelle. Cependant Jésus, resté sur le rivage, renvoyait doucement chez eux tous les pauvres enthousiastes, sachant bien que leur amour pour lui n'était qu'une forme de leur égoïsme. Son royaume n'était pas de ce monde, et l'heure de régner ne devait sonner pour lui qu'après l'heure de mourir. Mais il ne pouvait pas même leur expliquer ces choses, aucun d'eux ne les aurait comprises. À regret, le peuple se disperse, et le maître demeuré seul gravit les pentes de la colline qui domine le lac. C'est l'heure où la nature s'endort dans un dernier sourire. Le soleil va disparaître, le ciel est long de ce color de teinte magnifique. Comme au premier jour du monde, le Fils contemple avec plaisir cette création qui est son ouvrage. Il est triste pourtant. Son âme est excédée jusqu'à la mort par ce contact journalier avec tant de péchés, d'ignorance et de misère. Ah, comme il lui tarde d'être seul pour se retremper dans la communion du Père. Arrivé au faîte de la montagne, il se retourne. Aux dernières lueurs du couchant, il aperçoit comme un point noir sur la face empourprée du lac la barque où sont ses disciples. Il les suit du regard, les bénit, puis se prosterne et prie. Les premières étoiles ont paru. Les oiseaux, avec des bruits étouffés, ont caché leur tête sous l'aile. Les fleurs se sont fermées pour dormir. On n'entend que le souffle du vent dans les arbres et le clapotement lointain des vagues agitées. Jésus, toujours prosterné, continue à prier. Minuit. Le vent souffle en tempête. Le hurlement sinistre du chacal se fait entendre. Tout là-bas, 12 rameurs éperdus luttent contre les flots, tandis qu'ici leur maître semble les oublier et s'oublier lui-même dans la prière. Sa prière n'est pas comme la nôtre, l'effort pénible d'une foi chancelante. C'est l'entretien vivant d'un fils avec son père, c'est un dialogue et une contemplation. Et ce contact avec les choses invisibles est si réel que sa face en est illuminée. Elle rayonne de joie auguste et d'ineffable sérénité. L'humble docteur qui tout à l'heure refusait une couronne, le voici maintenant prince en vérité, tel un roi en exil qui le soir venu et la porte fermée s'ornerait pour lui des insignes souverains pour redevenir le lendemain l'hôte obscur et dédaigné d'une race étrangère. Pour qui priait le Christ la nuit sur la montagne? Il priait pour ce peuple ignorant et grossier, prêt à l'acclamer aujourd'hui parce qu'il l'avait nourri d'un miracle et prêt à le lapider demain si le miracle ne se renouvelait pas. Il priait pour que jusqu'au bout la force lui restât, car il lui en fallait autant pour vivre que pour mourir. Mais il priait surtout pour ces 12 rameurs qu'il voyait malgré les ténèbres, luttant contre la tempête. Il les voyait sur une autre mer, bien plus vaste, et dans d'autres périls bien plus grands. Ces rameurs sont l'espoir du monde. Cette barque, comme l'arche flottant sur le déluge, porte une nouvelle humanité, et tandis qu'elle vogue péniblement, le Christ prosterné prie, il prie pour qu'elle arrive au port. À l'heure désolée qui précède l'aurore, au moment où les nautonniers à bout de force laissent aller leurs avirons, une étrange apparition se dessine dans la brume grisâtre. Un fantôme! Le premier qui l'aperçoit le montre avec terreur à ses compagnons, et tous le voient. Ce n'est donc pas le rêve d'un homme assoupi. Aussi, tous ensemble, poussent-ils un grand cri, et peut-être dans l'espoir de dissiper ainsi la vision effrayante. Ô les tristes héros des batailles divines! Fils de la mer, ils ont peur des vagues. Fils de la terre, ils ont peur des fantômes. C'est avec ces hommes-là que Jésus veut fonder son empire universel. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point de peur. La voix qui parle ainsi est douce, mais forte. Elle domine l'orage, elle arrive jusqu'aux 12 rameurs. C'est lui, ô merveille! Il approche, il vient à eux sans barque ni voile. Ah, le voilà, celui qui n'est ni le fils de la mer, ni le fils de la terre. Voilà le fils du ciel, l'espérance du monde. Non, la nouvelle humanité n'est pas dans cette barque à la merci de cette mer infime. Elle est dans l'homme que la vague ne peut submerger, ni le sépulcre retenir. Allez, rameur, allez sans crainte. Avec lui, votre nacelle bravera toutes les tempêtes et de siècle en siècle abordera toutes les plages. Lorsque plus tard, après la Pentecôte, ils allèrent selon l'ordre du Maître porter au bout du monde l'évangile de la résurrection, que de fois les rameurs du lac de Galilée durent se souvenir de cette scène matinale. Sur la mer sanglante de la persécution, que de fois ils revirent l'apparition consolante. Au fond des prisons, sous le fouet, sous la hache, que de fois ils entendirent la voix bien connue, « Rassurez-vous, c'est moi !» Et toi, pauvre chrétien, pourquoi te désolerais-tu? Il t'a laissé seul, mais ce n'est qu'en apparence. Il prie pour toi, là-haut. Il te suit du regard sur la mer troublée de la vie. Rame, travaille, lutte et ne désespère jamais. Car, dans les brumes grises qui précèdent l'aurore, à l'heure la plus froide et la plus désolée, quand ta main défaillante abandonnera les avirons, tu verras apparaître aussi, non la mort, ce noir fantôme, mais ton sauveur, souriant et les mains tendues. « C'est moi, » dira-t-il, « n'aie point de peur. » Et ta barque aussitôt touchera le rivage.